Je dois l'avouer, je comprenais pas exactement ce que c'était la médiation culturelle, du moins jusqu'à ce que j'étudie la muséologie. Éventuellement, quand je suis retournée sur les bancs de l'université en histoire de l'art, j'ai compris que les activités de médiation, qui font partie de l'éducation muséale, font vivre le lieu. Elles créent des liens entre les publics et les objets, ou les œuvres, et la médiation, c'est l'un des instruments du musée ou de l'institution culturelle pour exercer son rôle d'accompagnateur. C'est lorsqu'elle met au cœur de ses préoccupations le public et les expériences qu'il va venir vivre. De la visite guidée au panneau explicatif, en passant par des ateliers de création, il y a vraiment plusieurs façons de connecter le public à l'art. Puis d'ailleurs, je parle beaucoup de musée, mais la médiation culturelle, ça dépasse le champ des arts visuels et des musées. Vous l'entendrez, l'invité de cet épisode nous offre plusieurs exemples assez différents et intéressants pour mieux saisir son métier. En bref, la médiation, elle rend l'expérience moins hermétique. Puis dans l'idéal, elle vise plus d'accessibilité et d'inclusion. Le médiateur ou la médiatrice, ce sont des facilitateurs, des constructeurs de liens. Ce sont ceux qui parlent à la fois la langue du public, mais celle de l'institution aussi, et qui ouvrent la porte. Évidemment, il existe vraiment plusieurs définitions de la médiation, puisque celle-ci peut prendre diverses formes, puis elle continue d'évoluer. Puis je me rends compte que depuis janvier 2020, mon envie de mettre en lien les artistes, l'art actuel et vous, les personnes qui écoutez mon podcast, c'est pas complètement étranger à une certaine approche en médiation. Qu'est-ce que la médiation culturelle et quelles sont les formes qu'elle peut prendre? Comment appréhender une exposition pour avoir une expérience agréable? Quels sont les défis des médiatrices et médiateurs? Pour aborder ce vaste sujet, j'ai la chance de discuter avec Hélène Gruenet, médiatrice culturelle et artiste illustratrice sous le nom de Yolun. Je suis Claire-Marine Béat et vous écoutez Sous la fibre, le podcast qui donne une voix à l'art visuel. Hélène, en tant qu'artiste, tu crées des dessins minimalistes, délicats et pleins de vie qui se retrouvent sur des vitrines de magasins, parfois dans des livres, des revues ou un petit peu partout à travers le web. C'est des instants de vie que tu captures à travers ton trait qui se déploie comme un fil en toute simplicité. Mais tu es aussi médiatrice en art contemporain et en art moderne depuis une dizaine d'années. Tu as eu l'occasion de travailler pour le Centre Phi, la Fondation Phi, la Maison des Arts de Laval, la Pépinière, Art Souterrain, mais aussi l'Espace culturel et la Fondation Louis Vuitton de Paris. Et récemment, pour le programme Unir de Rennes, pour ne citer que cela, premièrement, je suis fascinée par la richesse de ton parcours. Là. Généralement, je passe une minute sur LinkedIn par mois, grand maximum. Et là, j'étais vraiment impressionnée par ton CV. Fait que je pense que t'es littéralement la bonne personne pour me parler de médiation avec en plus cette double casquette que tu as. On va reculer un petit peu avant et je vais te demander comment l'art est entré dans ta vie avant tout le beau déploiement que j'ai cité.
Comment l'art est entré dans ma vie, c'est une excellente question. Ben, je suis née en Normandie, en France. Mes parents m'ont emmenée je dirais de manière normale, au musée, bien que l'offre culturelle à Caen, la grande ville à côté de laquelle on habitait, elle avait une offre culturelle à l'époque, donc dans les années 90, mais bon, c'était pas notre priorité non plus. Des fois, on montait à la capitale, à Paris, mais c'est surtout qu'en fait, mes parents m'avaient inscrite, ma sœur et moi, dans des camps de jour, le musée des Beaux-Arts de Caen. On faisait des visites assez classiques, mais c'était l'animateur qui animait ensuite l'atelier d'art plastique au sein du musée, qui nous montrait une sélection d'œuvres qui allait nous aider ensuite dans la réalisation de nos œuvres à nous. Je trouve que ça nous a pas mal baigné là-dedans. On voyait aussi bien des œuvres d'art classique, des œuvres contemporaines. Et puis, qu'à chaque fois, on étudiait des techniques nouvelles, la gravure, peinture, modelage, dessin. C'était assez varié. Et puis, j'ai continué à avoir le goût de créer. Donc, j'ai continué à prendre des cours avec les Beaux-Arts, en fait, le soir. Donc, j'étais ensuite adolescente. Et puis, en parallèle, j'avais des cours d'art dramatique. Donc, en fait, quand je me suis penchée sur ta question, je me suis dit, ah, est-ce que ça serait bon? Pourquoi dire que j'ai pris des cours de théâtre? Ben, en fait, ça se rejoint un peu. Parce que quand on est médiateur culturel, il y a quand même un côté, pas théâtral, je veux dire, mais d'avoir de l'aisance à communiquer, à parler aux gens. Donc, il y a ce côté-là aussi que j'avais déjà. Et puis, par la suite, donc, je suis rentrée au lycée secondaire. Donc, pendant 3 ans, puis j'ai suivi des cours d'histoire de l'art. Et puis, ma dernière année là-bas, c'était 5 heures par semaine avec un focus sur le cinéma de Sergei Eisenstein. Donc, c'était quand même un gros morceau. J'ai vu tous ses films. voilà, tout en continuant le théâtre. Et puis je me souviens d'une fois cours d'improvisation, on devait incarner un métier, puis j'ai décidé de défendre corps et âme l'art de Marcel Duchamp. Donc c'est comme si j'avais l'urinoir sous le nez, et en fait ça m'a passionnée. D'un coup je me suis dit waouh, c'est vraiment génial, et après j'ai oublié ce métier. En fait je savais pas que c'était un métier, voilà, puis on m'en avait jamais dit, donc voilà, à ce moment-là, je voulais être soit comédienne ou en tout cas quelque chose avec le théâtre, mais je n'avais pas vraiment pensé que je pouvais avoir un métier au sein du milieu muséal.
Mais c'est intéressant, tu as dit plusieurs choses qui peuvent nous amener tranquillement, pas vite, vers une définition de la médiation culturelle. À la fois, il y a des connaissances, il y a une curiosité, mais aussi de l'improvisation. Puis, on s'entend là, on ne va pas dire n'importe quoi d'une œuvre, mais comme tu disais, il faut quand même qu'il y ait une part d'animation, de jeu, quand on est médiateur, médiatrice. Donc tout ça fait bien du sens, en fait, quand on t'entend que tu aies trouvé ta voie là-dedans. Ce serait quoi ta définition de la médiation culturelle aujourd'hui?
Oui, c'est vrai que c'est pas la même qu'il y a 10, il y a 20 ans. Comme je te disais, j'avais pas vraiment de modèle de qu'est-ce qu'était un médiateur culturel. Alors oui, j'avais pu le voir avec les animateurs qu'on avait en atelier au Musée des Beaux-Arts. J'ai commencé ce métier en 2013. Et en France, à l'époque, les gens comprenaient pas notre rôle au sein du musée. Ils étaient plus habitués à avoir affaire avec un conférencier dont il avait réservé la visite. Un conférencier va offrir une conférence et on va le suivre d'un point A à un point Z, mais il va avoir tout son cheminement et puis on va le suivre. Et la visite ne va pas être très interactive. Moi, quand j'ai démarré en tant que médiatrice dans un milieu muséal, j'étais plutôt à faire des conférences, à avoir ma valise et que je déployais, mais sans savoir que dans cette valise, il y avait plusieurs tiroirs, plusieurs chemins à prendre. Et que cette valise, en fait, je pouvais la donner aussi à mes visiteurs et qu'on pouvait, en fait, la manipuler ensemble. C'est vrai qu'au tout début, j'étais vraiment dans cette visite très conférencière. Puis il y avait même j'étais en stage, donc j'apprenais, j'avais jamais eu de pratique avant. Puis un surveillant de salle qui est venu me voir, et il avait l'habitude de suivre les visites de mes collègues, et il m'a dit « Hélène, c'est super ce que tu fais, mais là, tu t'ennuies ». C'est ce qui s'est passé, hein. Je rêvais de mes visites la nuit, je reproduis exactement mes visites la nuit. Alors que j'avais des enfants devant moi qui étaient friands de parler, donc il m'a dit « Change, juste demande-leur ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, quelles émotions, quelle est leur vision, donc on construit en fait ensemble un dialogue, une réflexion. Le but du médiateur, c'est vraiment d'ouvrir les portes, d'analyser avec son public, d'échanger, de transmettre, et c'est principalement aussi ouvrir nos esprits, d'avancer ensemble. Je dirais, l'art, finalement, c'est un prétexte. L'idée, c'est vraiment pas de passer un bon moment, mais quand même. Ouais. Mais c'est de désamorcer tout ça. Puis Dieu sait qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment besoin de ces dialogues. Voilà, d'approfondir nos réflexions. Surtout aujourd'hui, on est tout le temps à scroller devant nos écrans. On lit plus vraiment les légendes, les contenus, les textes. Où il faut que le journal dise combien de minutes on va consacrer à la lecture de cet article. Ben là, en fait, le visiteur, il est déjà là. Il est devant l'œuvre. Donc, il y a déjà un effort de sa part. Et puis, voilà, l'effort, il est là. Donc, autant le maintenir, le soulever pour grandir, en fait, nos regards et nos esprits. En fait, un médiateur, pour moi, c'est un passeur de savoir. Voilà, c'est lui qui a sa mallette. Il sait improviser selon ce qu'on lui donne. Et puis, il va nourrir, en fait. Et on a tous les ingrédients, puis ensemble, on va faire un nouveau sandwich à chaque fois.
C'est le fun parce que c'est sûr que chaque visite est unique. Je pense qu'on pense la même chose, toi et moi. Puis moi, je peux aller voir une exposition avec ma meilleure amie et la médiatrice, le médiateur, va peut-être pas utiliser la même porte d'entrée pour nous faire connecter à finalement un contenu qui était le même, qui a pas changé. On était dans les mêmes salles, mais si on lui a pas parlé au même moment et que notre regard se portait plus sur une chose ou l'autre, on n'aura pas la même expérience. Donc je rejoins beaucoup ce que tu dis quand tu disais au début « je m'ennuyais ». Tu disais d'ailleurs que ta définition avait évolué. C'est ça, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus de t'adapter au public, déjà public plus jeune versus un public adulte ou un public à besoins spéciaux. Est-ce que finalement, c'est ça qui t'a happé dans le métier? C'est quand t'as compris que c'était pas une visite toujours similaire que tu devais donner à tout le monde?
Oui, tout à fait. C'est ça qui est passionnant avec ce métier, c'est que c'est toujours nouveau. On est tout le temps en train d'apprendre. C'est vrai que moi, j'ai l'exemple d'un 3 ans d'expérience dans un même lieu. J'ai participé à l'inauguration. Donc, de 2014 à 2017, j'étais employée par un prestataire extérieur à la Fondation Louis Vuitton en tant que médiatrice culturelle. Donc, j'étais au sein d'une équipe. Et c'est vrai que j'ai vu ce bâtiment évoluer dans mon expérience. J'ai évolué aussi. Donc, puisque la Fondation Louis Vuitton offre des expositions d'art moderne, d'art contemporain, de sa collection privée du groupe LVMH, mais aussi des œuvres qu'il emprunte de d'autres musées. Mais ce qui était très intéressant et enrichissant aussi dans ce bâtiment, c'était ses publics. Donc on avait vraiment soit le grand public qui venait voir les expositions grand public, d'art moderne, mais on avait aussi des publics très pointus qui attendaient vraiment un regard d'historien de l'art sur l'art moderne ou l'art contemporain. Donc il y a aussi des publics familiaux, puis des publics aux besoins spécifiques. Ce qui était vraiment intéressant et très riche dans ce métier, c'est qu'on a dû, avec l'équipe de médiateurs, c'était vraiment jongler en permanence avec le contenu qu'on se faisait entre nous, le contenu qui était donné par l'équipe de commissaires dans les cartels, toutes les recherches qu'on faisait sur les artistes et les œuvres exposées. Et on devait tout le temps jongler, voilà, avec les besoins en fait des visiteurs. Donc ça, c'était là, on s'ennuyait vraiment pas. ça a été vraiment une force en fait dans mon expérience, un beau tremplin. Puis j'ai appris énormément de choses que j'avais pas appris en histoire de l'art, par exemple. Ouais.
Ce serait quoi les publics les plus challengeants selon toi? Et c'est quoi des exemples concrets que tu as mis en place pour aller leur prendre la main puis les faire connecter avec de l'art?
Ouais, c'est une question. C'est comme si tu me demandais aussi quel public je préférais. mais je les aime tous, là. Mais c'est sûr que quand le visiteur est dans le musée et qu'il n'a pas vraiment envie de te parler. Une situation difficile, je trouve que c'est quand on met, et ça arrive régulièrement, on parle des musées, là, c'est qu'on doit faire de la médiation postée. Donc le médiateur, la médiatrice doit rester dans les salles et attendre en fait que le visiteur arrive et qu'un point d'interrogation pop au-dessus de sa tête. Un peu, quoi. Mais il faut être aussi proactif parce que bon, des fois, voilà, on ne voit pas trop l'émotion du visiteur ou le visiteur est gêné ou il t'a pas vu en fait dans la salle. Donc ça, c'est un peu un poste compliqué, mais très intéressant. Ça me fait souvent penser aux vendeurs quand tu rentres dans le magasin, puis le vendeur te fonce dessus. Vous avez une question, n'hésitez pas. Puis bon. Et puis, ouais, le public adulte, c'est quand même quelque chose. L'adulte faut l'apprivoiser. Hein.
Plus que l'enfant, au final.
Oh oui. Ben, les enfants, en fait, ils vont nous donner des clés en plus. Oui, ça m'est arrivé d'avoir des visites avec les jeunes publics avant, puis après, je fais mes visites adultes. Et en fait, je vais prendre des clés que m'ont offert les enfants. Des regards qu'ils ont eus, des observations, des choses en fait qu'en tant qu'adulte, et même moi si j'ai finalement ce talent, c'est devenu assez courant pour moi d'observer longtemps une œuvre, ben des fois tu vois pas l'essentiel. Tu vois pas le message, tu vois pas, parce que t'es pris en tant qu'adulte, ben, dès l'âge de 12 ans je dirais, t'es pris par un filtre, des fils, des œillères, t'as plus cette lumière-là, cette candeur, cette légèreté que tu as quand t'es enfant. Et c'est ça aussi dans nos productions visuelles. Hein. Quand on dessine, à partir de 12 ans, je trouve qu'il n'y a plus cette légèreté-là, même bien avant, je trouve. Et on recherche tous ça, en fait, ce regard-là, dans l'écriture, dans l'écriture graphique ou dans l'observation des œuvres, de voir sans filtre. Et le message de l'artiste ou tout simplement les couleurs qui nous disent des choses dans l'œuvre.
Ça met vraiment en lumière le pouvoir de facilitateur, facilitatrice de la médiation, d'aller voir des adultes puis leur gratter des petites couches de « non, enlève tes lunettes ». De sérieux, d'adulte, laisse parler ton imaginaire, laisse-toi... Même parfois, quand on raisonne moyennement avec une œuvre ou qu'une œuvre vient nous chercher de manière un peu négative, je trouve que c'est toujours pertinent mais de se questionner pourquoi, mm-hmm. et peut-être d'en parler à un médiateur, médiatrice. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parfois peur de parler d'art dans un musée à des médiateurs, médiatrices, parce qu'on a peur de pas connaître assez, on a peur de poser des mauvaises questions, mais il n'y en a pas des mauvaises questions, hein, je pense que tu pourras aller dans mon sens. Mm-hmm. J'aimerais qu'on revienne un petit peu aux outils de ton métier, aux outils de la médiation. On a beaucoup parlé de visites guidées, ou en tout cas d'intervention pendant les expositions des médiateurs, médiatrices. Là, tu disais de la médiation postée. Il y a plusieurs autres choses. Je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc. Bon, il y a tout ce qui est la rédaction des cartels. Il y a des audio guides ou des média guides quand là on a carrément un iPad ou des cartes avec nous. Il y a des dispositifs d'aide sans intermédiaire. Bon, ça c'est souvent le classique texte de salle ou alors des textes qui sont un petit peu mis à droite à gauche dans l'exposition pour nous donner du contexte. On sait que les gens lisent pas la totalité, mais c'est quand même censé apporter de l'aide aux visiteurs. Mais il y a aussi tout ce qui est atelier de création, de manipulation, des activités parfois insolites. Et on en parlait, les conférences qui peuvent être plus ou moins liées au contenu de l'exposition. Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce que tu veux nous apporter des précisions sur certains points?
Mais c'est déjà pas mal complet. C'est vrai que j'apporterai une précision sur les ateliers qui sont proposés. Il y a des ateliers comme proposés au MAC, au Musée d'Art Contemporain de Montréal, des ateliers en fait pour les adultes. C'est bien pour approfondir, pour connaître, pour apprendre une technique par rapport à une œuvre exposée ou dans la collection. Il y a les ateliers pour les enfants et en fait un atelier que j'adore, c'est les ateliers famille, parce que non, tu ne vas pas laisser ton enfant au médiateur et te la couler douce dans le musée. Non, blague à part, c'est important en fait, c'est un très beau moment que le parent en fait passe avec son enfant, tout simplement, et il va apprendre de son enfant
et il va aussi apprendre des choses qu'il n'aurait pas vues en tant qu'adulte seul. Donc c'est ça, on apporte aussi des clés par les visites et les ateliers famille. Et également, ce qu'on faisait à la Fondation, et ce qui est toujours fait à la Fondation Louis Vuitton, c'était les parcours rimes et comptines. Donc là, c'est adressé aux 2-5 ans, et c'est un parcours dans le musée. Et on va offrir en fait un autre regard, un regard plus poétique. On va se mettre des fois à quatre pattes, on va vraiment, en fait, on se met à l'échelle de l'enfant. Il y a aussi de l'art-thérapie. Je sais que le musée des Beaux-Arts de Montréal offre des ateliers d'art-thérapie. Ça, c'est vraiment un moment magnifique. Et on s'attend pas à ce que l'œuvre produite en atelier soit belle et esthétique. C'est pas ça qu'on cherche. En tout cas, ce que l'art-thérapeute souhaite pour son patient, pour son visiteur, c'est plus d'instaurer, d'établir un dialogue. On cherche à créer un fil. Donc, ce fil qui va nous conduire à s'exprimer, exprimer ce qu'on a au fond de soi, d'exprimer ses difficultés, ses ressentis, ses émotions. Et bah, y a aussi l'art communautaire. On fait venir la communauté au sein du musée, ou c'est sinon l'art qui va dans les communautés. Bah, l'artiste rencontre la communauté, et puis il va y avoir une co-création. L'accompagnement par l'art, quand l'art quitte le musée. Quand c'est le musée qui se rend dans d'autres institutions ou endroits où l'art n'a pas l'habitude de s'exprimer. Je pense aux camions musées qui se déplacent dans les villages et qui ont ou les artothèques. Donc c'est ça, moi je pense aux mallettes pédagogiques, aux trousses éducatives, aussi quand l'art se déplace en banlieue. Je pense à la Triennale de Laval, quand l'art se déplace en milieu carcéral. En tant qu'outil de réinsertion sociale, quand l'art se déplace à l'hôpital, c'est vrai que bon, quand on va à l'hôpital et qu'il y a de l'art sur les murs ou de l'art public, ça apporte quand même de la joie dans ton attente et dans ton malheur et dans ta douleur. Puis je pense aussi beaucoup au programme qui fête ses 10 ans cette année, le programme du Louvre, qui offre en fait un dialogue avec les hôpitaux en France. Et puis, il y a aussi des expositions, il y a eu des chefs-d'œuvre qui se sont déplacés, notamment à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Donc ça, c'est vraiment magique, quand vraiment l'art vient à toi, on fait rouler ton lit, et puis je trouve ça splendide, quoi. Donc, c'est ça, toutes ces facettes, ça renforce, en fait, tout simplement notre humanité.
La mission éducative du musée, elle dépasse tellement la visite guidée, mais je pense que la visite guidée, c'est la plus populaire d'entre toutes ces outils, de toutes ces options qui existent avec la médiation. À l'hiver dernier, tu as partagé une lettre d'amour à la médiation culturelle. Tu parlais à quel point tu aimes ton métier depuis plus de 10 ans. Tu recensais plusieurs expériences qui t'ont marqué. Est-ce que tu as envie de me partager une ou deux expériences qui ont été magiques pour toi en tant que médiatrice?
Mais oui, c'est vrai, j'ai pris du temps. J'ai mis du temps et j'ai pris du temps. Parce que j'avais envie de faire le bilan au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'était pour moi la médiation culturelle et puis qu'est-ce que m'ont apporté toutes ces expériences. C'est vraiment important pour moi de marquer le coup, puis de remercier les visiteurs s'il y en a qui me suivent, de remercier surtout en fait les équipes, les collègues. Et puis c'est vrai que dans cette lettre, j'avouais un peu aussi la précarité du métier. C'est pas tout rose tous les jours, il n'y a pas tout le temps des musées qui emploient en permanence. Et si le médiateur est là en permanence, en tout cas de mon expérience, j'en ai payé un peu les pots cassés, parce que j'ai été 9 mois sur le terrain à la Fondation Louis Vuitton à son ouverture. Et bon, après on a fait que les choses s'améliorent, on a écrit des lettres, on a fait des réunions. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la condition de travail des médiateurs s'est vraiment améliorée. Mais à l'époque, je travaillais en fait 35 heures par semaine. J'étais debout non-stop sur le terrain Ma bouche s'est asséchée, j'avais plus de salive. J'en rêvais tout le temps la nuit, je devais tout le temps écouter des balados dans les transports pour approfondir mes connaissances ou lire énormément de livres pendant mon temps perdu. et j'ai perdu 8 kilos, j'arrivais pas à regagner, je tenais plus sur mes jambes, je devais mettre des collants de contention. Puis on était baignés dans des salles quand même où les expositions étaient très populaires. Donc en nuisance sonore, après quand j'allais dans un bar le soir, si j'en avais l'énergie, ou un restaurant, en fait j'étais plus capable. J'ai décidé après ça de passer à mi-temps. Je sais qu'il y en a qui font ça à plein temps et qui l'endurent bien, mais tant mieux pour eux, parce que c'est un très beau métier. Mais moi je souhaitais que ce métier, je souhaitais le garder, je souhaitais encore l'aimer. Donc voilà, un peu un avertissement que je donnerais aussi aux médiateurs de se ménager. C'est vrai que moi j'ai été corps et âme en fait. Je sais qu'en France, en tout cas, il y avait beaucoup de stages, hein, il y avait peu d'emplois. Bon, j'espère qu'aujourd'hui les institutions comprennent la valeur de ce métier, puis qu'ils sont capables aussi de chercher les financements. Parce que c'était pas non plus un métier cher payé. Et puis on sait à quel point. Voilà, c'est beaucoup de recherche pour approfondir nos connaissances sur l'art et même aussi sur les publics. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de très très bons souvenirs. Je pourrais en parler des heures. Une de mes dernières expériences finalement sur le terrain, donc au Centre Phi pour l'exposition Mirages et Miracles d'Adrien M et Claire B. C'est une exposition très poétique, ça mêlait vraiment avec finesse, avec fluidité, les arts graphiques et les arts numériques, et puis aussi les arts de la scène qu'ils avaient captés par le numérique. Et il y a un groupe en fait qui avait réservé sa visite et... C'est un groupe d'adultes qui avaient des déficiences intellectuelles. Et alors là, en fait, ça a été magique. Il y avait de la magie dans leurs yeux. Ils étaient émerveillés. C'était vraiment un très beau moment, tout doux. Puis c'est ça aussi que j'aime dans ce métier, c'est tout le temps rapide. Enfin, en tout cas, de ce qu'on m'a appris d'expérience, c'est bon, ben voilà, t'es là, t'es payé, t'es là, t'es proactif. Et en fait, quand t'as des moments de douceur qui t'arrive où la lenteur est d'un coup présente, ben c'est là en fait que la magie opère, je trouve. Ça leur avait vraiment apporté de l'apaisement, je trouvais. Ils sont revenus en fait plusieurs fois après ma visite pendant la journée. Il y avait une installation immersive qui les a fascinés. J'avais vraiment les larmes aux yeux. Puis la magie opère aussi, je trouve, dans un de mes publics préférés, c'est les publics en francisation. Parce qu'une fois encore, là, on prend le temps d'observer, de s'asseoir, de parler, d'apprendre un nouveau vocabulaire. Il y a des moments de silence, c'est correct aussi. De leur donner totalement la parole et puis, d'un coup, leur sortir des petites case de ma valise, mais pas trop.
Tantôt, tu parlais de la précarité de l'emploi, de ses particularités, tu sais, le fait de rester debout, d'être toujours sur le qui-vive, puis de connecter, puis de pas sortir les mêmes outils pour tout le monde, pour que la magie opère. Ce serait quoi les autres défis que tu verrais, ou en tout cas ceux que toi t'as rencontrés en tant que médiatrice?
Un des gros défis, je pense, pour le médiateur, c'est de favoriser la prise de parole des participants. Imaginons, tu vas avoir ton visiteur peut-être une minute, peut-être cinq minutes, peut-être une demi-heure, et peut-être si ça se passe bien une heure. En fait, c'est ça, hein, tu ne sais pas, sauf si le groupe a réservé évidemment sa visite, tu sais si c'est un temps d'une heure ou deux heures et ses besoins. Mais des fois, tu ne sais pas, puis c'est ça le truc, c'est qu'il faut. Le défi, c'est d'improviser. Et de mettre tout de suite en confiance son visiteur. Donc que ça soit par l'humour, ça aide beaucoup, je trouve. Ouais, c'est des petites pirouettes très fines, subtiles, pas arriver avec un char d'assaut pour pas écraser. mais voilà, y aller avec finesse. Et surtout de créer un échange proactif pour que personne s'ennuie. Donc ça serait ça, de partir du regard et de l'expérience, du bagage du participant, du visiteur, pour ensuite le nourrir. Quelque chose qui est en train d'évoluer aussi, c'est tout simplement les artistes qui se penchent vers l'art numérique. J'en ai fait l'expérience au Centre Phi, mais cette fois-ci, ils avaient fait appel à moi parce que l'exposition se nommait « Cadavre exquis » et elle réunissait des œuvres d'art contemporain en réalité virtuelle. Donc là, c'est des artistes, et je pense qu'il va falloir qu'on y pense de plus en plus à ce type de médiation et ce type d'œuvre. C'est des artistes contemporains qui collaborent avec des organismes de réalité virtuelle, de réalité augmentée, pour créer des œuvres. Même d'un point de vue de conservation, d'achat, voilà, moi je me suis vraiment arrêtée à là au niveau du numérique. Ça m'intéresse pas beaucoup d'aller fouiller dans les œuvres qu'on peut acheter en ligne et qui nous appartiendront que virtuellement. Je suis jamais allée là-dedans. Donc il y avait ces œuvres de réalité virtuelle. Donc les visiteurs aller mettre des casques sur leurs yeux pour être plongés dans des œuvres immersives. Nous, en tout cas moi, j'avais offert une médiation en amont. Donc j'accueillais le groupe de visiteurs et pendant une demi-heure, je leur parlais des artistes qu'ils allaient trouver dans l'exposition. Mais bien que ces artistes soient des pointures dans le milieu de l'art contemporain, ils ne les connaissaient pas et c'est correct. Et donc j'avais un iPad. Et j'avais préparé un PDF, une exposition en fait. J'exposais les artistes qu'ils allaient voir dans l'exposition. Donc je disais, bon ben voilà, Olaf Eliasson, c'est un artiste qui vit à Berlin, qui travaille avec son studio, qui fait tel type d'œuvre. Donc je leur faisais plein d'introductions, je pense qu'il y en avait 10 ou 12 artistes. C'est à eux de stocker le matériel dans leur tête pour ensuite, lorsqu'ils arrivaient, le casque de réalité virtuelle, se dire « Ah, c'est l'artiste dont elle m'a parlé qui fait cet arc-en-ciel, je vais rentrer dans un arc-en-ciel. » Et c'est vrai que cet artiste, il cherche à dégager chez moi telle ou telle émotion, tel et tel ressenti. Ok, là, je comprends. Et donc ça, c'est un challenge. Vraiment, je me suis dit « Waouh, il va falloir qu'on s'habitue, en fait, à ce genre d'exposition, ce genre d'œuvre. » Parce que c'est sûr qu'à un moment, on va être dedans. Là.
Est-ce que tu penses que ton travail d'artiste vient beaucoup teinter ton approche en médiation ? Comment ça vient se manifester dans ton travail de médiation ?
Ça aide d'être artiste, c'est sûr. Puis en tant qu'artiste illustratrice, ça vient teinter mon approche en médiation et vice-versa. Mais ce qui est drôle, c'est que de plus en plus, la médiation vient traverser mon travail d'illustration. Donc récemment, il y a une metteuse en scène, donc la co-directrice de la compagnie de théâtre Système Kangourou, qui m'a proposé de venir capter en dessin des enfants avec lesquels donc elle faisait des ateliers de théâtre, de danse, de prise de parole sur qu'est-ce qu'ils pensent de la dissidence et des règles que leur donnent les adultes. Donc ça, c'est pour un spectacle qui aura lieu avec la compagnie du théâtre Carrousel. Et donc là, moi, je dois capter en dessin ce qui se dit et ce qui se fait. Et en fait, le dessin va aider à la compréhension du projet, à la parole de ces jeunes. Produit aussi ces captations dessinées avec la Chapelle Scène Contemporaine. Donc là, c'est les arts dramatiques qui se déplacent dans les écoles avec le théâtre. Et donc là, je viens aussi capter ce qui se fait, ce qui se dit, puis c'est vraiment des pépites. Et ce qui est génial, en fait, c'est que mon rôle, c'est de faire ça. Alors que lorsque je suis en visite avec des enfants, ben je vais, à part le noter tout de suite après leur départ, je vais oublier ces pépites de cette magie, en fait. Et puis un dernier projet, un projet qui avait été mené l'an dernier par une chorégraphe, donc Ariana Pirella Sanchez, au sein de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Et elle avait posé la question « Que voulez-vous explorer avec la danse ?» à un groupe de femmes qui ont vécu l'expérience de la rue, l'expérience de la solitude, de la précarité et qui ont trouvé refuge. Et donc on avait fait un fanzine. Je trouve que ça vient valider auprès de ces femmes-là ces moments de création. Que ça soit au niveau de la danse, du travail de faire ensemble, de créer ensemble, de parler aussi, d'écrire ce qu'elles ressentent. Au final, en illustration, je fais de plus en plus de médiation et ça me plaît. Je fais de l'illustration au service de l'humain et mon but, c'est de sortir, encore une fois, d'être au service des gens, quoi. En fait, je sortais d'école d'art et en 2013, finalement, j'étais vachement fermée. J'avais mes artistes préférés, je ne me serais pas autant ouverte en fait à l'art. J'allais au musée, certes, mais j'avais mes goûts, mes choix et j'étais pas bien ouverte. Je me suis rendue compte qu'en fait, l'expérience en étant tout le temps devant. Des chefs-d'œuvre en fait, et même au niveau de l'art contemporain, je me suis ouverte à l'art, je me suis ouverte aux gens et je me suis ouverte au monde tout simplement. Mais j'aime garder mon regard d'enfant, et puis c'est pour ça aussi que j'aime que mon regard soit alimenté par le regard des enfants. Il y a des choses, j'aime beaucoup, beaucoup, ça c'est un peu. Des fois, je me dis, bon, quand même, arrête. Mais j'aime beaucoup faire des ponts entre les œuvres quand je fais une visite. Ça me passionne, en fait. Et c'est peut-être pas du tout le choix, en tout cas, le regard qu'avait le commissaire quand il a scénographié l'exposition. Des fois, on me dit, ah bon, c'était ça? Il y avait vraiment ce lien entre ces deux artistes? Je dis, non, non, mais c'est. Voilà, j'apporte une certaine poésie aussi. J'aime raconter des histoires, donc je pense que ça se ressent dans la construction de mes visites. À m'y perdre des fois. Hein.
Mais je pense que ça sert à ça aussi, la médiatrice, elle vient activer. Donc oui, il y a l'intention de la commissaire, de l'artiste, mais au final, c'est le médiateur, la médiatrice qui est sur le plancher avec le public. Il faut quand même le persuader qu'il y a un intérêt, que c'est pertinent pour lui de porter une petite attention. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui viens activer tout ça. Et dans tous les cas, je pense qu'on fait tous cet exercice quand on aime l'art. En tout cas, on vient créer des ponts un peu naturellement, même s'ils sont pas forcément voulus. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes visuels qui sont d'accord avec le fait qu'on se réapproprie leurs images. Je pense que toi-même, en tant qu'artiste, peut-être que si on voit dans tes personnages un souvenir de famille, une émotion que toi, t'avais pas du tout vue, à mon avis, t'es quand même d'accord de te laisser ça. Mm-hmm. Au courant des années 2000, il y a ce qu'on appelle le tournant éducatif, les musées tranquillement, qui étaient un peu des musées-temples, des espèces d'écrins luxueux dans lesquels on était privilégié de voir des œuvres, se sont transformés progressivement en musées un petit peu forum, voire carrément laboratoire, là, quand on parle de vraiment faire agir le public, lui montrer qu'il a un rôle aussi dans la production du savoir. T'as quand même vu des changements s'opérer les 10 dernières années, puis le musée adopter, le musée ou les institutions de diffusion d'art adopter cette posture éducative. Est-ce que tu veux m'en dire plus concernant ton expérience personnelle, comment les choses elles ont changé, comment est-ce que toi tu l'as vécu de l'intérieur?
Ouais, je pense que il y a jamais eu autant de propositions. Je suis abonnée à beaucoup d'infolettres, un petit peu dans tous les musées ou institutions. Puis il y a vraiment énormément de propositions. Puis on peut s'y noyer là. c'est même des soirées spéciales, des DJ sets. Des fois, peut-être, on pourrait s'éloigner du contenu de l'œuvre. Et c'est vrai que ceux qui sont très à cheval sur le contenu, ben, je pense qu'ils pourront toujours trouver le texte très académique et des fois trop élitiste dans les cartels, cartouches, textes accompagnant l'œuvre. Mais au niveau des cartels, je trouve qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont mis pour que les textes soient accessibles et qui puisse aussi questionner le visiteur, qui puisse un peu le déplacer de sa position du visiteur qui vient juste consommer ce qu'on a à lui donner. Ce genre de propositions viennent questionner, donner place à l'observation, donner place aux émotions. C'est des choses qu'on ne doit pas perdre de vue. Mais c'est vrai que la proposition est forte, je trouve, même pour fidéliser aussi, des fois, il y a aussi ce côté financier des institutions il faut donner envie au public, aux visiteurs, de revenir. Et que ça soit, en fait, presque sa seconde maison. Le public est en confiance. Je sais qu'on donne beaucoup la main aux enfants, aux écoles, mais c'est par les enfants qu'on va amener aussi les parents.
Puis tu parlais de soirées spéciales, de DJ sets, t'sais, tout ce qui est de l'ordre de l'action culturelle, même genre du yoga au musée. Là. C'est vrai que ça peut faire venir aussi des gens qui ne fréquentent pas du tout ou plus du tout le musée, qui pensent que c'est un lieu uniquement où faut être ultra calé en art visuel, en histoire de l'art, et au contraire, dans l'idéal, on peut rêver. Là. Le musée, c'est quand même une place pour tout le monde où chacun, chacune peut trouver un petit quelque chose, voire un grand quelque chose qui va l'interpeller. Donc, je pense que ce genre d'action, même si, bon, tout va pas s'adresser à tout le monde, mais peut faire venir du monde, dire « Hey, c'est le fun, on a des expos, check ça, c'est intéressant, pour telle communauté aussi, parfois, pas s'adresser au même public privilégié. » Je suis assez d'accord avec toi.
Le musée, je trouve, a cette obligation de... En tout cas, j'aimerais que ça soit une obligation, mais de varier ses publics. C'est au chargé des publics d'aller chercher plus loin. À cette exposition-là, elle pourrait intéresser tel ou tel public. Ou de rendre accessible pour ce public-là, ça va être gratuit. Ça va être, au niveau des tarifs aussi. Je suis un peu comme Jean Villard avec le théâtre. C'est la démocratisation de l'art. Il faut que l'art soit accessible au plus grand nombre, même ceux qui ne sont pas au courant que l'art existe et peut les aider à aller mieux.
J'ai une dernière question pour toi, mais ce serait quoi ton ou tes conseils pour qu'on puisse mieux apprécier nos visites d'exposition.
Tu parlais de lunettes tout à l'heure, moi je parlais aussi d'œillères ou de filtres. C'est vrai que j'ai beaucoup étudié les accouchements. Alors rien à voir, mais c'est un peu pareil. L'accouchement, si tu y vas avec beaucoup de crainte et de peur, d'angoisse, ça risque de pas très bien se passer. Mais si tu mets des lunettes roses, ben quand même, tu vas être dans ta bulle et ça va bien se passer. J'adore les histoires d'accouchement, alors.
Mais oui, c'est un parallèle inusité, mais j'aille pas ça, c'est correct.
Mais non, mais c'est que ça peut bien se passer. Si toute ta vie on t'a dit, oh là là, les musées, c'est un ennui. C'est vrai que ma maman, elle aime pas beaucoup les musées. Hein. Et quand je suis devenue médiatrice, c'était un peu mon défi de la faire venir et qu'elle aime. Et en fait, elle a adoré parce qu'on lui racontait des histoires. Et... Donc, tout simplement, c'est de changer de lunettes, de regard. Je sais que pour certains publics, même s'ils s'ils sont là, s'ils sont dans le musée d'art contemporain, bah, des fois, ils ont suivi leur famille après le repas de famille. Hein, allez, on va au musée. Et ils y sont allés vraiment en traînant la patte, c'est dur. Et je le ressens. Des fois, il y a devant des monochromes d'Ellsworth Kelly, il y a souvent des visiteurs qui venaient me voir et me dire « Moi aussi, je peux le faire. J'ai de la peinture qui me reste dans le garage. »
C'est le classique. Hein.
C'est le classique. Et des fois, et des fois, je manquais vraiment de patience. Faites-le. Et puis, on verra. Mais il y a quelque chose à rajouter. C'est faites-le, mais tous les jours, toute votre vie. Et soyez le premier à le faire. Avec autant de passion et de rigueur. Alors là, bon. Alors, l'idée, c'est pas de calmer la colère du visiteur. Mais oui, des fois, faut calmer. Il y a de la colère parce qu'il y a de la frustration, parce qu'il y a de la peur. Comme pour tout. Et le médiateur, dans ce cas-là, c'est celui qui va reconstruire le pont entre l'œuvre et le visiteur, parce que le pont, il est cassé, ou il n'a jamais existé.
Donc le conseil, ce serait d'essayer de porter nos lunettes roses, ou en tout cas d'avoir l'audace d'essayer de porter un nouveau regard sur l'art.
Mais oui. De ne pas en avoir peur, et puis... toujours, retrouver nos yeux d'enfant, en fait. Et puis, si on a l'occasion d'emporter un enfant avec nous. Mais c'est toujours mieux. Puis, c'est ça qui m'attriste quand je vois des enfants qui sont sur leur tablette au musée. Tout le monde passe à côté de quelque chose, quand même.
Vous venez d'écouter Sous la fibre, un podcast créé et réalisé par Claire-Marine Béat. Les musiques originales sont signées Juliette Béat et Yvan Vindray. Un grand merci à Hélène Gruenet pour son temps et son partage qui, je l'espère, aura suscité chez vous des envies de pousser la porte des espaces de diffusion et surtout d'oser ouvrir des dialogues avec des médiatrices, des médiateurs et vos proches. Je tiens également à remercier les professeurs en muséologie Marie-Blanche Fourcade et Marie-Josée Jean. Pour soutenir Sous la fibre, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à parler du podcast autour de vous. Merci, à bientôt.